بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون شيخان إسلام dans le verset 17 de la sourate Al-Qalam, Allah Azza wa Jal rappelle au Quraysh, si on peut faire éteindre les ventilateurs, barakallahu fikoum. S'il y a une personne qui sait éteindre les ventilateurs, on est très embêté avec le vent qui fait tourner les pages. Jazakallahu khair. Dans le verset 17 de la sourate Al-Qalam, Allah Azza wa Jal rappelle au Quraysh une histoire qui était connue des Arabes. L'histoire de Ashabul Jannah, des personnes qui possédaient un jardin. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal rappelle cela au Quraysh? Pour qu'ils réalisent que Allah Azza wa Jal leur a accordé des bienfaits. Et parmi les bienfaits qu'Allah a accordé au Quraysh, at'amahum min jou' wa amanahum min khawf. D'accord? Que la baraka qu'il y a à Mecca est le fait qu'ils aient la sécurité. Et en plus des deux ni'amas que les Arabes avaient, mashallah, depuis des générations et des générations, qui concernaient principalement la ville de Mecca, Allah Azza wa Jal va les honorer par al-bi'tha, par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de prendre considération de ce bienfait, ils vont réagir par orgueil, par fierté et par intérêt. Et c'est pour ces trois raisons, jazakallah khair. C'est pour ces trois raisons que les Quraysh n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, c'est uniquement par fierté, par orgueil et par intérêt. C'est pour ces trois raisons que les Quraysh qui n'ont pas cru au prophète alayhi salatu wassalam, ils sont restés dans la perdition. Alors qu'intérieurement, ils savaient qu'ils avaient en face d'eux le meilleur des hommes. Celui qui a un comportement inégalable, celui qui reçoit la révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Il savait que c'était quelqu'un qui était différent. Mais il voulait garder les avantages que leurs parents, leurs grands-parents avaient depuis des générations. Et ce point-là, on a suffisamment abordé dans d'autres versets. Et là, ça nous montre la gravité de la fierté, de l'orgueil, le fait de vouloir toujours se rattacher aux traditions. Être fier des traditions qu'on a héritées de nos parents, de nos grands-parents. Et Ikhwani fillah, lorsqu'on a le choix entre le haqq, la vérité, et tout ce qu'il y a autour, l'honneur, la fierté, la gloire, la beauté, la richesse, l'héritage culturel, ce qu'on peut représenter pour la société, et que ces points-là t'amènent vers la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, choisis le haqq sans hésitation. Le nom d'un sahaba qui a tout laissé pour le haqq, Abu Bakr al-Siddiq, sans le moindre doute, Mimbab Aoula, un jeune qui a délaissé l'argent, donc la richesse, l'honneur, Izza, grande famille, son pouvoir de séduction, il était connu comme étant le jeune le plus beau, le plus élégant à Mecca, et qui a tout laissé, qui a été déshérité, qui a été chassé, et qui n'avait pas suffisamment de vêtements pour couvrir son corps au moment de son enterrement. Allons, vous voulez qu'on appelle Julien Le Perse ? جنيان الفارس مصعب بن عمير رضي الله عنه يونو تولسي un des gens les plus riches, les plus admirés de Mecca, et une grande tribu noble. Lorsqu'il a vu le haqq, la vérité auprès du prophète sallam, il avait le choix. Mais parmi les salihs salihin, ses parents lui ont donné le choix. En gros, soit il reste avec eux et il continue à jouer de tous les bienfaits. Ou alors il va suivre cet homme qui, selon eux, déshonore les Banu Hashim. Mais s'il suit Mohammed, il doit tout abandonner. Effectivement, il a suivi le haqq, il a tout perdu. Mais il n'a pas tout perdu, il a tout gagné. Autre exemple, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, se rend en Syrie. Il est à la frontière de Damas, Dimashq. Il est accompagné par son serviteur. Déjà raconté cette histoire ? Oui. Et ils avaient une monture pour deux. Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire le chef des croyants. J'allais dire le roi ou le prince, mais ce sont des titres, mais c'était celui qui gouvernait sur la péninsule arabe et dont le royaume, subhanallah, avait commencé à se répandre. Amir al-Mu'minin, il ne se permet pas de prendre deux montures. Ça ne s'appelle pas du covoiturage, du co-chevalage et du co-chamourage, de chamouage, je ne sais pas comment ça se dit. C'était la simplicité. C'était la simplicité chez Amir al-Mu'minin. Et il était avec son, je n'ose pas dire le terme esclave, mais en arabe, on dit « abid ». Mais quand on parle d'esclaves, Allahu Akbar, ce sont des esclaves qui avaient plus de droits que nos smicards, nos travailleurs à notre époque. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, parle d'esclaves, il dit que ce sont des personnes, ce sont vos frères. Donnez-leur à manger de ce que vous mangez, maintenant, yani, quand tu cuisines. Et dans des hadiths, il est stipulé, quand vous passez à table, qu'ils passent à table avec vous. Mais s'ils ont trop honte, hadith authentique, s'ils ont honte, ben, qu'ils aient une portion de nourriture, le sens du hadith, pour qu'ils puissent manger en même temps que vous. Donnez-leur les mêmes vêtements que vous portez. Ne leur donnez pas des charges que vous-même, vous ne pouvez pas accomplir. Ça, c'était le sens du abid. Rien à voir avec les voleurs, les marronniers, avec les voleurs d'êtres humains, qui allaient sur les côtes en Mozambique, qui prenaient des pères de famille laissant femmes et enfants. Bref, c'est pas du tout la même chose. Donc, celui qui était au service d'Umar ibn al-Khattab, et Allah seul sait quel était cet honneur pour cette personne d'être au service d'Umar ibn al-Khattab, quand Anas ibn Malik était au service du Prophète pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il a raconté de la noblesse de caractère du Prophète? Je pense que c'était lui-même, quand ses parents étaient venus le récupérer, il a dit « Jamais je ne pourrai quitter un homme aussi noble que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Et donc, Umar ibn al-Khattab est avec son serviteur, ils ont une monture pour deux. Et ils montaient à tour de rôle. Quand on a dit une monture pour deux, on aurait pu penser que c'est le serviteur qui tient les rênes de la monture et Umar qui s'assoit en tant qu'Amir al-Mu'minin. Aucunement. Il a dit al-Naoub, on fait tourner la monture. Donc, si je ne me trompe pas, dans les versions, on parle c'était un âne. C'est même pas un chameau. Un chameau peut monter à deux. Un âne, non. Et donc, arrivé aux portes de Damas, c'était le tour du serviteur pour être sur la monture et Umar qui devait marcher. Donc, si on suivait le tour, c'était comme ça. Et donc, les nobles, entre guillemets, j'ai horreur de ce terme, les nobles de Dimashq sont venus accueillir Umar ibn al-Khattab à l'extérieur de la ville pour voir comment ça se présente. Je pense qu'ils connaissaient un petit peu la personnalité d'Hazrat Umar. Et lorsqu'ils ont vu Umar, déjà Umar était, j'allais dire mal habillé, mais il n'était pas habillé comme un roi. Déjà, ils étaient un peu choqués. Et ils voient, c'est le serviteur qui est sur la monture, ils ont dit à Umar, « Oh, Amir al-Mu'minin, quand tu vas rentrer à Damas, ben, tu vas rencontrer les grands, les riches, ou tu vas rencontrer les dirigeants de la communauté chrétienne, les Batariq, qui sont à Damas. Il faut donner bonne impression. » Tu ne peux pas te présenter à eux comme ça, ils vont déconsidérer le rang de Amir al-Mu'minin. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, regardez ces personnes dans leurs yeux, c'est moi qui rajoute. Il leur a dit, « Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam. » Nous sommes un peuple qui a été honoré par Allah azza wa jal par l'islam. C'est-à-dire que le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. « La ilaha illallah Muhammad rasulullah. » Shahadatul tawhid. C'est ce qui fait de nous les ibadur rahman, les serviteurs d'Allah. Et la suite de la citation des Umar, c'est magnifique. Il dit, quiconque cherche l'honneur dans autre chose que ça, il n'aura, dans le sens de sa parole, il n'aura strictement rien. C'est-à-dire que l'honneur pour moi, ce n'est pas d'avoir des habits de roi. Ce n'est pas d'être sur une monture et de me présenter devant eux comme un roi. D'accord ? Le plus important, c'est ce que je porte dans mon cœur, ce que je vais vous délivrer. Des leçons d'humilité, mais également des leçons. On réalise que le tawhid, l'unicité d'Allah, le shahadatayn, la foi, le iman, c'est la chose la plus profitable pour les croyants. Et donc, les Quraysh, ils ont préféré, enfin, les Quraysh qui n'ont pas accepté l'islam, ils ont préféré les liens de famille, qaba'il, ta'assub al-qabali, on appelle ça. Le fait de rester accroché aux traditions. Et Allah seul sait combien de personnes continuent à suivre le chemin de ceux qui restent attachés aux traditions. On a beau expliquer à une personne que telle action, akhifillah, ça n'existe pas de la sunna. Ça, c'est une bid'a. C'est peut-être des personnes qui, à une certaine époque, ont pensé que c'était profitable, mais peut-être c'était valable pour un moment précis, mais ce n'est pas perpétué comme une sunna. On peut leur expliquer ça avec tous les termes, ils vont dire que non, nos parents nous ont enseigné comme ça, c'est ça la religion. Et là, ça suit la sunna des personnes qui disent à peu près la même chose à travers les versets. Inna wajadna aba'ana ala umma. On a trouvé le sens du verset, on a trouvé nos parents, c'est-à-dire nos ancêtres, sur une façon de faire, dans une façon de procéder, et nous ne faisons que les suivre. C'est-à-dire on ne va pas chercher la vérité, on va suivre parce qu'on perpétue des traditions. Alors que le mu'min, il se réfère à la parole d'Allah et à la sunna de l'Habib, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui fait que le din, l'islam, est une religion universelle. Et le musulman qui pratique à l'île de la Réunion, à Paris, à New York, à Moscou, et ainsi de suite, théoriquement, sa pratique doit être la même parce qu'elle découle de la même source. Elle doit être identique à celle d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. C'est ce qui fait la grandeur, c'est ce qui fait la noblesse, c'est ce qui fait la véracité, c'est ce qui fait l'authenticité de cette religion, la religion qui a été protégée par Allah. Personne n'a le droit d'apporter une quelconque modification. Personne n'a le droit d'y apporter une interprétation personnelle qui n'a pas été citée par les Qurun al-Mufaddala, les trois grandes générations. Khairul Quruni, Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sahaba, Tabi'in, Atba'i Tabi'in. Il n'y a pas plus grand savant que ces savants des trois, j'allais dire des 300 glorieuses, des trois générations. Ensuite, la compréhension des grands savants de Ulum al-Hadith, Bukhari, Muslim al-Nasai, Abu Daoud, Malik, Ibn Majah, c'étaient les grands savants des ulama al-Hadith. Et ensuite, à travers la compréhension des grands fuqaha, Abu Hanifa, Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, qui peut se prétendre plus intelligent qu'Abu Hanifa? Qui peut se prétendre plus intelligent qu'Imam Shafi'i? Il a réalisé ذلك. Donc, ikhwani fillah, on ne veut pas trop se perdre, mais je veux dire qu'il y a des fois où on se proclame « Je suis Shafi'i, je suis Maliki ». Il se pose la question, est-ce qu'Imam Shafi'i faisait ce que tu es en train de faire là, comme action, comme façon de, je sais pas, de célébrer certaines choses, d'accord ? Il dit « Ben non, mais lui c'était un faqih, nous là on parle d'autre chose. » Soit c'est un modèle, soit c'est pas un modèle. Parce que ne me dis pas que toi tu as une autre pratique, une pratique qui est meilleure que ton imam Shafi'i ou Abu Hanifa ou Imam Ahmed, ou mieux que les Bukhari, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est une religion cohérente. C'est une religion, on n'a pas besoin d'inventer ni d'interpréter quoi que ce soit. Tout se trouve dans le Coran et tout se trouve dans la Sunna, et on a cette garantie que la parole d'Allah est préservée jusqu'au Qiyam. Et on a cette garantie que les hadiths sont basés sur des chaînes de narration qui ont été étudiées par les ulama de hadith, ulama de jarh et de ta'dil, qui fait que quand on cite un hadith, que on dit Rawah al-Bukhari, c'est de l'or. Rawah Muslim, c'est de l'or, et ainsi de suite, dans les kutub al-sitta. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, attention à cette réaction parfois de suivre les traditions et de mettre de côté la sunna, ça nous éloignerait du droit chemin. Et ce serait tellement dommage que d'avoir un tracé clair de Coran ou sunna et de continuer à suivre les traditions comme les Quraysh suivaient les traditions alors qu'ils avaient devant eux le modèle qui était là, qui était présent. Donc leur faute était encore plus grave. Ils écoutaient les versets, mais ils avaient l'homme qui recevait le wahi. Et ils voyaient que cet homme-là, il était parfait. Il n'y avait rien à le reprocher. Allah Azza wa Jal a protégé le prophète de telle façon que depuis son enfance, il était parfait. Il n'a jamais accompli, il n'a jamais commis les erreurs que les enfants ou que les adolescents commettent. Mahfouz, protégé par Allah Azza wa Jal. Et le Quraysh, il savait tout ça. mais c'était la fierté, l'orgueil et les intérêts personnels. Ça, c'est, vous savez, dans chaque verset, comme l'a dit la dernière fois, il y a une leçon pour nous. Même si le verset concerne les Quraysh, même si les versets concernent ceux qui adoraient Allah ou Al-Uzza, on a toujours un enseignement à retirer. Quel est l'enseignement ? Attention à ne pas répéter ou à ne pas commettre un péché ou développer un défaut qui se rapproche même un petit peu de la logique des péchés des personnes qui ont été citées. Et là, les Quraysh, ils ont un exemple qui les interpelle parce que vous savez, les Arabes, ils aimaient les histoires, les traditions, tout ce qui fait un petit peu les bases de leur culture. Ils le gardaient. Les Arabes avaient beaucoup d'attachement également pour les shi'r de Jahiliyyah, les poèmes de l'époque pré-islamique, mais les grands poètes. Bref, donc, sur le plan culturel, ils aimaient tout ça. Et donc, Allah Azza wa Jal va donner cet exemple à sa sallam que, on est au 17, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger. Et les Arabes connaissaient cette histoire. C'était des personnes qui... Alors, Ibn Kathir, rahimahullah, il cite l'histoire de façon précise, et on va voir le rapport avec les Quraysh. Ils reçoivent le meilleur des hommes, le message, et ils font preuve d'orgueil, de fierté et d'ingratitude, et du coup, ils perdent ce bienfait. Donc, ils ont été éprouvés comme ces personnes qui avaient un jardin et qui n'ont pas su profiter de ce bienfait, qui ont utilisé ce bienfait dans le mauvais chemin ou qui avaient, et là c'est encore plus grave, de mauvaises intentions de la façon d'utiliser ce bienfait, et ils en ont été privés, et ils ont beaucoup regretté. Ashabul Jannah, Jannah dans le sens de jardin vergien, pas dans le sens de paradis. Donc Allah Azza wa Jalla, nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin sans dire si Allah le veut, une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les versets étaient assez longs, on a voulu lire toute l'histoire et l'objectif c'est de compléter cette histoire qui occupe une grande partie de la sourate Al-Qalam. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, situe ces personnes comme étant des Ahl al-Yaman, des gens qui étaient donc du Yémen, donc proche de, on va dire, de la péninsule arabe. Dans certaines versions, on parle, ils étaient de Habasha, d'Éthiopie, mais peu importe, c'était des jeunes dont le papa venait de mourir. Et le papa avait donc un verger, qu'il a donc laissé en héritage à ses enfants, mais leur père était un homme pieux et surtout un homme généreux. Il avait l'habitude de donner régulièrement une partie de ses récoltes en aumône, en sadaqa, donner à manger aux pauvres. Et lorsque le père est décédé, les fils, je ne sais pas, ils étaient à combien, si Ibn Kathir précise, ils étaient à 3, en tout cas, ils étaient plus que 2, parce que le pronom personnel, c'est un prénom de jam', de pluriel en arabe. « Kanu min ahli al-Yaman » d'accord, « wa kana abuhum qad khallafa lahum hadhi al-Jannah » après son décès, il leur a laissé donc ce jardin. « Ah, wa kanu min ahli al-Kitab » ils faisaient partie des gens du livre. وَقَدْ كَانَ أَبُوهُمْ donc, c'était quelqu'un de bien qui donnait à manger aux pauvres. Voilà. فَلَمَّا مَاتَ lorsqu'il est décédé et que les enfants ont hérité, قَالُوا لَقَدْ كَانَ أَبُوْنَا أَحْمَقْ notre père était, on va dire qu'il était bête parce qu'il ne gardait pas ses biens. Il aurait pu avoir beaucoup plus que ça. Mais il préférait donner aux pauvres. Et dit, وَلَوْ أَنَّ مَنَعْنَاهُمْ لَتَوَفَّرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا logique humaine qui va à l'encontre de la baraka, de la bénédiction divine. Ce sont dit que notre père, il donnait. Il donnait tellement que du coup, il vivait de façon très juste. Mais s'il l'avait gardé, il aurait eu plus. D'accord ? Il dit, nous, maintenant que nous sommes propriétaires de ce jardin, on ne donnera strictement rien aux pauvres. Au moins, on aura plus de récoltes, on va consommer, on va vendre, on aura plus d'argent. Et donc, on saura comment faire fructifier nos biens, contrairement à notre père qui n'avait pas toute sa tête peut-être, parce qu'il était trop généreux, il était naïf. Vous voyez la logique humaine ? Alors que le mu'min, il a iman, yaqin, conviction sur tous les ahadith, et les versets avant tout, qui parlent de la sadaqa et la baraka, la bénédiction qu'Allah Azza wa Jal donne, accorde à celui qui donne le monde. Et quand Allah Azza wa Jal promet de remplacer ce que tu as donné. Allah promet de remplacer ce que tu as donné. et tu trouveras une baraka, une bénédiction exceptionnelle. Donc, on ne va pas ouvrir ce chapitre, parce que je pense qu'on a eu l'occasion à Montreuil de parler un peu de l'aumône et de tout ce que cela nous apporte comme bénédiction, comme, on va dire également, remède contre les problèmes de santé, les maladies, contre les balas, contre les difficultés, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est de voir cette logique humaine qui veut que si je garde plus, je vais plus profiter. Je voulais pas dire travailler plus pour gagner plus, parce que bon, je veux pas rentrer de ce genre de débat, mais plus on a, plus on profite. Plus on a, plus on jouit. Et cette logique-là, ce n'est pas la façon, ce n'est pas la sunnah d'Allah. Ce n'est pas la façon qu'Allah Azza wa Jal agit avec nous, envers nous, en fonction de ce que nous pensons de lui. Si nous avons la conviction qu'Allah est généreux, il va nous accorder dans son trésor illimité, Allah va t'accorder. Et tu places ta confiance en Allah et tu donnes. Et donc ces personnes-là, ils ont effectivement fait l'intention que c'était la veille de la récolte. Il dit donc demain, c'est le jour de récolte. Et en général, quand il y a la récolte, les pauvres, ils avaient pris cette habitude de venir au verger de notre père décédé. Ils savaient que le jour de la récolte, ils devaient se trouver donc à cet endroit, et là notre père les faisait rentrer, il leur donnait quantité de récolte. Il dit que donc, pour anticiper la venue des pauvres, nous on va faire la récolte dans la nuit. On va faire la récolte dans la nuit. C'était leur mauvaise intention. Il dit que afin que personne ne soit présent. Et ils ont fait la promesse, si on retrouve le verset, il y en a une dizaine. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'étaient réveillés très tôt, ils allaient vers les champs, ils parlaient doucement pour ne pas attirer l'attention, pour que personne ne sache qu'ils sont en train de se rendre aux champs. Et ils partirent de bonne heure. Non, on revient le 24. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Sou'niyah, mauvaise intention. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle Iyakum wal ma'asi innal abda la yudhnibu dhanba fayuhramu bihi rizqan qad kana huyya lahu. Attention au péché, car, virgule, à cause des péchés, Allah prive un serviteur d'une subsistance qui lui était déjà prédestiné. Autant l'aumône et les bonnes actions d'une façon générale nous apportent bénédiction, et quand on parle de bénédiction, c'est également les portes de la baraka qui s'ouvrent. Tu trouveras la bénédiction dans tes biens. Autant les péchés ferment les portes de la bénédiction. Aujourd'hui, quand on cherche la raison de la crise économique, pourquoi on est en crise, pourquoi les fins du mois sont de plus en plus difficiles, oui, il y a l'euro, oui, il y a les impôts, il y a plein de choses, sans le moindre doute. Mais peut-être que si on revoyait un petit peu les péchés que nous accomplissons au quotidien, on trouverait que la solution, ou le problème plutôt, vient des péchés. Parce que le péché, c'est un obstacle à la bénédiction d'Allah. Hein, ça allait ? Le péché est un obstacle à la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Si on veut avoir la baraka de nos biens, on essaie de rester dans le droit chemin. On essaie de ne jamais désobéir à Allah Azza wa Jal. Et là, c'est une garantie de bénédiction. Donc, quelle était leur erreur? Est-ce qu'ils ont volé? Ils n'ont rien volé. C'est-à-dire, ils n'ont pas accompli de péché, proprement dit. C'est juste qu'ils ont fait l'intention de ne pas accomplir une bonne action. Là aussi, les savants, par analogie, par déduction, disent que quand Allah t'accorde un bienfait, que ce soit les biens, l'argent, ou ainsi de suite, il ne faut jamais penser que ça, c'est pour moi. Là, ça, je partage avec personne. Quand on commence à penser de cette façon, c'est là qu'on ne trouve plus la baraka. Et ça nous permet également de réaliser quelle doit être la nature de la relation du croyant avec son prochain. Sa relation doit être basée autour de la solidarité, de la fraternité, de la muhabba, et l'envie de donner, l'envie de partager. Chose qui nous manque cruellement à notre époque. On vit une époque où nous sommes tous renfermés sur nous-mêmes, d'accord? Nous surveillons notre portefeuille et nous avons peur que quelqu'un vienne manger une bouchée de nourriture chez nous, ou nous prive un peu de nourriture, na'oud billah, et on oublie que tout ce que nous avons, ça vient de qui? Ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Alors, pour revenir à notre histoire, parce que on a peut-être atteint, on a oublié de démarrer le chronomètre. Du coup, on est pardonné. Le chronomètre n'a pas été activé. Donc, du coup, là, on a encore 33 minutes. Donc, ces personnes, ils se sont rendus à leur jardin et, on va aller un peu plus vite, arriver. Alors, quelle fut la punition d'Allah était mécontent de leur décision. Et la punition, c'est qu'Allah a envoyé un châtiment qui a brûlé, qui a désintégré leur champ. Tout a été réduit en cendres. Ça, c'est Jundullah. L'armée d'Allah intervient avec des intermédiaires ou sans intermédiaire. Il n'est pas précis, Ibn Kathir, est-ce que c'était une tempête ou autre chose, mais Allahu a'lam, on ne se prononce pas, qu'on ne sait pas, mais je ne pense pas que c'était un événement météorologique, autrement ils auraient su qu'il y avait une tempête la veille ou autre chose. Quand ils se sont rendus au champ, c'est-à-dire au verger, avec l'intention ferme de ne pas laisser entrer le moindre pauvre, c'est-à-dire sous une niya, Allah te rétribue parfois par ta bonne intention. Tu sors de chez toi avec 5 euros en poche, tu te dis, si je trouve quelqu'un, je vais lui donner. Tu ne trouves personne. Et après, par inadvertance, tu achètes 1 kilo de mangue-josée. D'accord ? Et tu manges, tu donnes à manger à ta femme et tes enfants. Sache que, ô musulman, cette intention que tu avais de donner, ce hasanat, il est dans ton livret de compte. Parce que le niya était saliha, bonne intention. Ça, c'est le karam, générosité d'Allah Azzawajal. Animons nos cœurs de toutes les bonnes et les meilleures intentions. Que jamais le cœur ne soit habité par un pourcentage de mauvaises intentions ou de perversité ou d'envie de nuire, d'envie de dire des choses mauvaises sur les gens. Il faut avoir le cœur pur. Et on a un gros problème, même chez les religieux. Le cœur n'est pas pur. On a toujours envie de parler sur quelqu'un, envie de critiquer une personne qui pratique, mais on pense que sa pratique est erronée, il a la connaissance, mais on pense qu'il n'est pas de le bon manhaj, donc on va publier des liens, on va écrire des choses, on va se les transférer par WhatsApp, on va dire qu'un tel était un ignorant, en fait les gens ont dit de lui telle chose. Ça apporte quoi? Avec les priorités qu'on a chez nos jeunes, la famille, les couples, le divorce, la situation 2017 qui s'approche, qui doit nous interpeller, le monde musulman. Et qu'est-ce qu'on trouve de mieux à faire? De parler sur des savants qui sont morts depuis des années, qui ont donné leur vie pour la science. Subhanallah, à quel point Shaitan nous occupe? À quel point Shaitan nous occupe par nous-mêmes? Qu'on oublie la Umma. On pense qu'à régler nos comptes. Si on arrivait à la cheville, je veux dire, à l'orteil de ces savants qui ont donné leur vie pour la connaissance religieuse, peut-être tu peux parler. Mais qui sommes-nous à notre époque, en 2017, pour parler des savants qui sont parfois décédés depuis 6 siècles, 7 siècles, 8 siècles, et qui ont donné l'intégralité de leur vie pour Allah et pour l'ilm? Un peu d'humilité, un peu de tawadhu. On peut ne pas être d'accord avec tout le monde, mais ça n'apporte rien de critiquer. Ça c'est vraiment, ça c'est ma vision des choses. Sauf si quelqu'un est vraiment, il invite via des choses horribles, d'accord? Mais bref, on va essayer de revenir vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que le cœur du mu'min, il doit jamais être entaché par l'envie de désobéir à Allah Azza wa Jal ou l'intention ferme de ne pas obéir, de ne pas accomplir de bonnes œuvres. Parce que tout ça, ça va à l'encontre de ce qu'Allah attend de nous. Et ces gens-là, ils n'ont pas fait de péché, ils n'ont pas volé les biens d'autrui. Ils se sont dit que ça, c'est à nous. Et on ne donne pas pour garder plus de récolte et d'argent. Allah détruit tout ce qu'ils avaient. Et quand ils sont arrivés, قالوا إنا لضالون. Et ils se sont dit qu'on s'est trompé d'endroit. La veille, il y avait un champ avec, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient pousser, mais c'était magnifique. Imagine, tu as des arbres fruitiers remplis de fruits. Et que tu t'apprêtes le lendemain à cueillir tous les fruits. C'est le résultat du travail de 6 mois ou 7 mois. Et le lendemain, tu arrives, il n'y a plus rien. Tu dis que non, je me suis trompé. Ils se sont dit, c'était tellement choquant, ils se sont dit qu'on s'est trompé de chemin. C'est pas le bon verger. Quand ils sont revenus, ils se sont rendu compte que c'était ça, cet endroit. Là, ils ont commencé à avoir des remords. Ils ont réalisé leur erreur. Ils ont compris et ils ont demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Et là, ils ont eu ce souhait. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Donc, exemple que les Quraysh savaient à propos des gens, Ashabul Jannah, ils avaient des bienfaits, ils ne voulaient pas en tirer profit spirituellement, le bienfait leur a été repris et ils ont eu des remords. De la même façon, l'épreuve touche les Quraysh, ils ont un joyau et ils ne prennent pas considération de ce joyau. En commentaire du ulama, il y a plein de sagesse à travers cette histoire. Les savants disent également que, vous voyez, la réaction, les remords, malheureusement, interviennent après l'erreur. Et la reconnaissance des péchés intervient après. Le moumine intelligent, c'est celui qui a la connaissance, qui recherche la connaissance, et qui, avant d'agir ou de prendre des décisions ou des résolutions, il analyse, est-ce que je suis dans le droit chemin ou non, pour ne pas avoir à reconnaître notre erreur quand c'est trop tard. On va dire, il n'est jamais trop tard pour demander pardon, sans le moindre doute. Mais si tu es passé à côté d'une situation où tu pouvais te rapprocher d'Allah ou t'éloigner d'Allah, tu t'es éloigné d'Allah, après les remords, c'est vraiment dommage. Alors qu'avec un minimum de connaissances, de clairvoyance, on peut anticiper les situations et savoir quelle est la volonté d'Allah et quelle serait désobéissance envers Allah Azza wa Jalla. Là, on n'a pas fait de tafsir verset par verset comme d'habitude. Comme l'histoire était un peu longue, on a raconté l'histoire. Et ils ont dit, قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Ils ont reconnu leur erreur. هَذَا. Les savants disent également, ô musulmans, et là ils parlent au-delà de l'histoire, اعترف بذنوبك قبل الموت, reconnais tes erreurs avant de mourir. Reconnais tes erreurs avant ce moment où les anges te posent des questions à propos de ce péché. Reconnais tes erreurs avant qu'Allah Azza wa Jal ne te fait remettre un livret du jour de Qiyama où ces péchés sont inscrits et qu'Allah devant son tribunal te pose des questions à propos de ce péché. Là, c'est vraiment une catastrophe. Alors que le mu'min intelligent, il passe en revue ses péchés et il demande pardon à Allah pour chaque péché et il fait l'intention ferme de ne plus recommencer. Ça, c'est un homme clairvoyant. Ça, c'est celui qui a al-basira, qui a la clairvoyance, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-mawt. Il travaille, il œuvre pour la vie future. Et s'il y a un manquement, il demande immédiatement pardon à Allah Azza wa Jal. Ce sont là des réactions basiques du croyant. Analyse ta vie, prévois, anticipe et fais en sorte de ne pas avoir de mauvaises intentions. De ne pas avoir l'intention de faire des péchés ou de ne pas avoir l'intention de ne pas faire de bonnes actions. Un exemple, une personne se dit demain c'est samedi. Je suis fonctionnaire et donc demain je ne travaille pas. Et donc demain je vais faire fajr à la maison. Ça c'est une mauvaise intention. Il n'a pas dit que je ne fais pas du tout autre chose. C'est-à-dire que tu as la possibilité de faire une bonne action, mais tu as déjà l'intention de... Tu te fermes la porte toi-même. Ça, c'est une situation qui est très mauvaise. À nous de nous en préserver. Garde toujours de bonnes intentions. Sois animé des meilleures des intentions et aie le cœur le plus pur dans ta relation avec Allah Azza wa Jal et ensuite dans ta relation avec les gens. Qu'Allah Rabbul Izzah, dans sa clémence, dans sa sagesse, dans sa générosité, ait pitié de nous. Et qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre les leçons de cette histoire et que nous arrivions à anticiper chaque étape de la vie et ne jamais prendre de mauvaises résolutions et que nos cœurs soient toujours animés par les meilleures des intentions et qu'Allah donne tawfiq ensuite de mettre en application, concrétiser ces bonnes actions, ces bonnes intentions et que jamais Allah ne reprend un ni'ma, un bienfait qu'il nous a accordé à cause de notre ingratitude et de nos péchés. La semaine prochaine, on va voir des versets qui sont magnifiques. Après avoir vu les Quraysh qui insultaient le prophète sallam, après avoir vu le réconfort du Seigneur des mondes à l'attention de son al-Habib sallam, après qu'Allah maintenant révèle devant les yeux, on va dire, de toute l'humanité, les défauts cachés intérieurs des Quraysh, de ceux qui étaient ennemis du prophète sallam, après qu'il leur donne l'exemple, attention, ceux qui étaient avant vous ont commis ce genre d'erreur. Allah Azza wa Jal va annoncer la bonne nouvelle pour le mu'min. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ce sont les versets, inshaAllah, que nous allons voir la prochaine fois. Ma tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.